premier temps d'une nouvelle semaine de la Fabrique de l'Histoire consacrée aux politiques environnementales et à leur histoire. Demain, le documentaire de Catherine Decopé et Séverine Cassard traitera de la place des abattoirs dans une grande capitale, Paris, au XIXe siècle. Mercredi, nous nous intéresserons à la perception de l'environnement dans la Rome antique. Jeudi, à l'histoire des risques industriels. Et aujourd'hui, pour ouvrir donc cette semaine, nous avons le plaisir de recevoir avec Anaïs Quien l'historien Grégory Kennett, professeur à Versailles-Saint-Quentin et qui fait partie des pionniers de l'histoire environnementale en France. Il travaille actuellement sur une histoire environnementale des Seychelles. Oui, vous avez bien entendu, les Seychelles. Puis, dans la deuxième partie de l'émission, Joséphine Le Sur nous rejoindra. Elle est archéozoologue, spécialiste de l'Éthiopie. Ils nous expliqueront comment l'histoire environnementale, dans le temps long, transforme l'histoire de certaines régions du monde, comme par exemple l'océan Indien. Mais tout de suite, comme tous les lundis, cette émission s'ouvre sur un nouvel épisode du feuilleton sur la guerre froide, la fabrique de la guerre froide. Aujourd'hui, le 43e épisode, conçu par Anaïs Quien et réalisé par Françoise Camard.
Věřme dál v socialismus a demokracii.
Vážení přátelé, já napriek střelbě a napriek citovému pohnutí, které šetří...
Товарищи делегаты, уважаемые гости, 27-й съезд КПСС...
La guerre de Corée se poursuit. Sous la conduite du général Volcker et du général Dean, héros des combats de Teheran...
...in the defense of our own security and of the entire Western Hemisphere... ...and under the authority of...
...dotyczyły one spraw bardzo ważnych.
Let me ask you one simple question. Do you placed and is placing medium and intermediate range missiles and sites in Cuba? Yes or no?
La fabrique de la guerre froide. En 1954, les balais russes viennent se produire à Paris. L'événement fascine et la presse se précipite pour voir ces légendes de la danse classique. On peut ainsi lire dans Le Monde du 7 mai 1954. Déjà, depuis trois jours, les Russes travaillent à force. Ils s'entraînent le matin au foyer de la danse et répètent l'après-midi sur le plateau avec l'orchestre. Les tenues de travail des danseuses, sans point commun avec les collants de nos ballerines, sont des tuniques tombant jusqu'aux pieds, modèle chemise de nuit. Leurs chaussons sont mous, à semelles de caoutchouc. L'entraînement que suit et non devance le piano d'accompagnement paraît assez libre, consistant surtout pour les sujets femmes en de simples enchaînements de déboulés. Parmi les hommes, les porteurs, qui forment une classe à part, s'exercent à la voltige aérienne de leurs partenaires, comme le feraient des acrobates sur le tapis brosse. L'atmosphère des répétitions est extrêmement sérieuse. Stéphanie Gonsalves.
C'est la première tournée de danseurs soviétiques à Paris. Ces danseurs soviétiques sont composés en fait de deux troupes distinctes, les deux plus grandes troupes, c'est-à-dire le Kirov de Saint-Pétersbourg et d'autre part le Bolchoï de Moscou. Et c'est une tournée exceptionnelle puisque c'est la première fois que des étoiles des deux compagnies se réunissent ensemble en une seule troupe et partent pour Paris, qui a été désignée par les soviétiques comme la ville lumière et la première ville que les soviétiques doivent conquérir sur la scène de la danse pendant la guerre froide. Alors, ils arrivent en mai 1954 après des mois de négociations et c'est une tournée historique en ce sens qu'elle est réciproque, comme tous les échanges culturels pendant la guerre froide, et c'est vraiment la première tournée politique négociée en danse à cette époque. Les Français ont envoyé quelques semaines plus tôt la Comédie française, qui a joué Molière devant des salles combles à Moscou, et de l'autre partie, ce sont les danseurs soviétiques qui arrivent à Paris. Et on le voit bien dans cet extrait que la presse se presse pour voir justement comment sont ces corps soviétiques, qu'est-ce qu'ils vont faire sur scène, quelles sont les spécificités de la danse qui est amenée, puisqu'en fait on n'a jamais vu les danseurs soviétiques danser à Paris. Donc il y a une sorte de curiosité très grande pour ces corps qui vont se donner à voir sur scène.
Oui, d'ailleurs on souligne que l'équipement paraît un peu plus rudimentaire que l'équipement des danseurs français.
On compare évidemment les costumes, on compare aussi les corps, et dans cet extrait, on voit bien l'aspect genré aussi. On compare d'une part les ballerines, les femmes, et puis d'autre part les hommes, notamment cette caractéristique de la danse soviétique avec ses porteurs, c'est-à-dire ces hommes en force, avec une musculature assez développée, qui met en avant finalement l'homo soviéticus, hein, tel qu'on aimerait le voir et tel que la propagande soviétique va le démontrer.
Et c'est très différent du corps d'un danseur français à la même époque ?
Notamment le dos des soviétiques est un dos très fort, et on sait très bien qu'en danse classique, hein, le dos tient tout le corps. Et c'est surtout cela que les danseurs français vont comparer avec les danseurs soviétiques dans les studios, au cœur même des studios. Il va y avoir un échange de techniques. Et ce qu'il y a de particulier pendant cette tournée, c'est justement, et cette première tournée, c'est justement le fait qu'au cœur des studios, on a une intimité qui se crée avec les danseurs, et donc un véritable échange culturel. Il faut savoir qu'il y a des interprètes, hein, qui sont là régulièrement dans les conversations, hein, dans les cocktails, dans les rencontres. Mais la particularité de la danse, c'est qu'elle est en français et qu'on enseigne toujours dans le monde entier la danse en français. Par exemple, un plié, un développé, un jeté se dira en français aussi en URSS.
Malgré tout, la politique va s'insinuer dans ce voyage de 1954.
Alors, la politique va s'insinuer de manière assez violente en 1954, puisque dans la nuit du 7 au 8 mai, il y a la fameuse bataille de Dien Bien Phu, qui signe la défaite française en Indochine. Et dans la nuit du 7 au 8 mai, alors que les soviétiques ont déjà répété sur la scène de l'Opéra de Paris, le président du Conseil doit annuler cette tournée parce qu'une partie des billets pour la première représentation ont été achetés par les anciens combattants d'Indochine. Et les danseurs soviétiques seraient en danger de danser sur scène parce que dans la salle, éventuellement, il pourrait y avoir ces anciens combattants qui pourraient se retourner contre les danseurs. Et donc, il est décidé d'annuler cette tournée vraiment en quelques heures. Alors, dans un premier temps, d'ajourner cette tournée, c'est-à-dire que les danseurs soviétiques ne peuvent pas faire la première alors qu'ils ont répété. Et donc, ils sont dans Paris en train de s'occuper comme ils peuvent. Et puis finalement, cette tournée, elle est reportée chaque jour, de jour en jour. Et on se rend bien compte au bout d'une semaine que ça ne va pas être tenable et qu'il faut renvoyer chez eux ces danseurs soviétiques. Alors cet épisode est, je le dis, assez violent parce qu'au final, on a invité ces gens. Hein, c'est vraiment considéré comme un camouflet de la part des Français contre les Soviétiques. Cela dit, ça n'empêchera pas les tournées suivantes, puisque en 1958, il y aura cette grande tournée entre l'Opéra de Paris et le Bolchoï, vice-versa, à Moscou et puis à Paris, de manière parallèle.
Voilà pour ce nouvel épisode, le 43e du feuilleton La Fabrique de la Guerre Froide, signé comme d'habitude Anaïs Quien et Françoise Camard, que vous pouvez télécharger séparément de l'émission du jour et garder avec vous pour avoir l'ensemble de ce feuilleton qui a commencé, rappelons-le, au début de la saison dernière. Donc il y a maintenant 43 épisodes à écouter ou à réécouter, mais tout de suite notre émission qui ouvre la semaine de la Fabrique de l'Histoire consacrée aux politiques environnementales avec cette archive. C'est une archive qui date de 2008.
Un écosystème fascinant, unique sur la planète. Au cœur de l'océan Indien, à l'est de l'Afrique, voici Aldabra, un atoll des Seychelles, vestige de l'effondrement d'un volcan. Le lagon, 35 km de long, 15 de large, est devenu un refuge pour des milliers d'espèces d'oiseaux, d'insectes, de reptiles menacés de disparition. Un sanctuaire naturel, notamment pour ces fameuses tortues terrestres. Aldabra en abrite plus de 150 000, c'est la plus grande population de tortues géantes au monde. Elles se reproduisent ici depuis plus de 200 000 ans. Tel un poumon géant, le lagon aspire et rejette en permanence l'eau de l'océan, remplissant et vidant les quelques 200 km² de haut fond à chaque cycle de marée. Seuls quelques scientifiques sont autorisés à séjourner ici pour étudier et observer de près les effets du réchauffement climatique sur la faune et la flore d'Aldabra, qui ne sont pas épargnées par toutes sortes de pollutions. Des trésors de biodiversité à l'état pur, Aldabra est un laboratoire vivant pour les chercheurs du monde entier.
Voilà donc une archive de 2008 signée de nos confrères de RFO, donc à propos de l'atoll d'Aldabra qui se situe dans les Seychelles, on l'aura compris. Bonjour Anaïs Kia.
Bonjour.
Et ces Seychelles qui vont être au cœur de notre discussion dans cette première partie de l'émission avec vous, Grégory Kenneth, bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes venu souvent à la Fabrique de l'Histoire, vous êtes historien des risques, vous avez travaillé sur les tremblements de terre, vous avez ensuite travaillé sur l'histoire environnementale, donc vous êtes un pionnier en France, un des premiers à vous y intéresser, vous dirigez d'ailleurs une collection dans ce domaine, donc une collection d'éditions, de livres. Et puis, vous avez par ailleurs donc travaillé sur une histoire environnementale du château de Versailles dont on a parlé il y a peu de temps dans la Fabrique de l'Histoire. Et maintenant, votre sujet, et c'est pour cela que nous avons passé ce reportage, c'est une histoire environnementale des Seychelles. Qu'est-ce qu'une histoire environnementale des Seychelles, Grégory Kenneth ?
C'est partir de la question suivante. Comment se fait-il que l'on imagine aujourd'hui que l'on voit des îles comme des îles du paradis, l'endroit, la destination paradisiaque où on a envie de partir en vacances, alors que historiquement ces îles ont été des enfers, isolées de tout, très très hostiles. C'est partir du dialogue entre le présent et le passé. Comment se fait-il qu'il y ait aujourd'hui une sorte de singularité des Seychelles, qui sont des îles à peu près plutôt durables par rapport à d'autres, qui ont mis une protection de la nature extrêmement forte avec cet îlot d'Aldabra comme ce dont vous avez parlé. Et quand on se pose cette question, on commence comme historien, c'est-à-dire que l'on va dans les archives, sur place, les archives nationales des Seychelles. Évidemment, on ne trouve pas ce que l'on s'attendait à trouver. Et peu à peu, eh bien, nos idées changent dans le dialogue avec les sources et avec aussi des acteurs sur place.
Et j'imagine que quand on dit à son directeur de recherche ou à son centre de recherche, je vais faire l'histoire environnementale des Seychelles, il y a quelques ricanements qui accompagnent la proposition, j'imagine.
Alors, heureusement, j'avais des financements indépendant, l'Institut universitaire de France, donc je n'ai pas eu besoin de demander d'autorisation, mais sinon oui, j'aurais eu des ricanements. Oui.
Anaïs Kien.
Alors, peut-être qu'il faut signaler une des singularités de ces îles des Seychelles, Grégory Kenneth, c'est qu'il n'y a véritablement aucun homme lorsque les premiers colons vont décider de tenter de s'installer. Ça ne va pas être très simple de s'installer sur ces îles.
Oui. La compréhension de la nature par les historiens a été longtemps thématisée à partir de la rencontre avec l'autre. C'est-à-dire l'autre, le bon sauvage, qui définissait l'autre nature. Or, on oublie qu'un certain nombre d'îles étaient des îles inhabitées. C'était le cas de l'île Maurice. Mais ça s'est fait plus progressivement. Et les Seychelles, c'est encore plus net, puisque lorsque Lazare Picot, en 1743, s'arrête, eh bien, seuls les Anglais se sont arrêtés avant lui, n'y sont pas restés, et sans doute quelques navigateurs arabes, donc il n'y a rien, pas de traces humaines. Et donc, peu à peu, eh bien, va se construire une image d'une nature historique dans cet échange, et cette manière de recouvrir de signes une végétation qui est très monotone.
Parce que lorsqu'il n'y a pas d'hommes qui nous précèdent sur un territoire, on est dépourvu, pour prendre une métaphore historienne, on est dépourvu d'archives pour s'inspirer d'un comportement, le suivre ou le contredire, d'un comportement sur un territoire donné qu'on ne maîtrise absolument pas. C'est cela aussi, c'est l'histoire d'une absence, cette découverte.
Ça, c'est la question historiographique dont je suis parti à partir du grand livre de Richard Grove, Green Imperialism, qui n'est pas traduit en français, où il dit cette chose assez étonnante. C'est Pierre Poivre, commissaire intendant de l'île Maurice, qui a inventé le premier une politique climatique et environnementale en 1769. Pourquoi, dit-il? Parce que c'est la découverte d'une autre nature qui crée un choc et qui nous amène à projeter une image européenne qui est celle d'un Éden. Ce qui est assez paradoxal, puisque c'est ce qu'on ne connaît pas qui nous amène à rapprocher de ce que l'on connaît. Et c'est la raison pour laquelle qui m'a conduit finalement à m'interroger sur les Seychelles. Où, quand j'ai travaillé là-bas, une des premières choses dont on m'a parlé de manière très étonnante, on m'a dit « mais la constitution de la nature de 1787 ». Qu'est-ce que c'est cette constitution de la nature de 1787? Et en fait, c'est un règlement pour les Seychelles de 1787 qui est dû à Malavoie, qui est le représentant français sur place, et qui est une sorte de gouvernement autoritaire de la nature, puisqu'il place sous coupe réglée, eh bien, l'exploitation des tortues. Il interdit de ramasser les tortues. Et il y a une sorte de continuité qui se fait jusqu'à, finalement, les Seychelles indépendantes et le premier président, et une continuité qui est revendiquée.
Oui, il faut dire que quand Malavoie prend cette décision en 1787, il y a 11 habitants aux Seychelles, d'après ce que j'ai cru comprendre, d'après un article que vous nous avez fourni sur le peuplement des Seychelles de Claude Vanquet, qui était un article ancien, mais il y a
11 habitants libres.
Libres, ouais, non, c'est ce que j'allais rajouter, et 219 esclaves. Donc c'est déjà une tentative d'exploitation de cet endroit-là, qui a été découvert peu de temps auparavant par les Français, et donc on voit bien qu'il y a une tentative d'installation, mais qui est un peu désordonnée, comme le disait tout à l'heure Anaïs Quin.
Qui est désordonné parce qu'en fait, le seul avantage des Seychelles, c'est de trouver une route plus directe pour aller vers l'Inde. Le capitaine Morphée, argumente dans les années 1760 en disant que l'on peut gagner un mois sur le trajet jusqu'à Bombay pour les épices. Mais sinon, l'îlot n'a absolument, ces îlots granitiques n'ont absolument aucun intérêt.
Hormis ces tortues dont vous
parliez. Alors la viande, c'est la viande de l'océan Indien. Et les archives décrivent des navires qui chargent jusqu'à 1000 de ces tortues gigantesques, certains au point de chavirer, et qui les amènent pour les vendre à Maurice et à La Réunion, notamment pour les hôpitaux, pour les malades. Et donc, en quelques années, les tortues sont sur le point de disparaître.
Alors, on peut se poser des questions. On se dit, comment cette île est-elle contrôlée par 11 habitants libres et avec 219 esclaves sur place? Ça, c'est des questions d'histoire sociale, d'une certaine façon, mais qui peuvent aussi poser des questions à l'histoire environnementale, parce que l'histoire environnementale, telle que vous la concevez, Grégory Connett, et telle que la conçoivent les penseurs de l'histoire environnementale, en particulier aux États-Unis auparavant, c'est effectivement une histoire qui embrasse tout. Elle embrasse à la fois la zoologie, la faune, la flore, le climat, évidemment, la question des risques naturels qui sont liés à l'endroit dans lequel on vit, les relations avec les autres pays alentour ou au-delà des mers, et effectivement les questions sociales qui sont liées au combat pour la survie dans un territoire donné, par exemple.
Plus je pratique l'histoire environnementale, plus il m'apparaît qu'il ne s'agit pas d'un nouveau champ de recherche comparable à l'histoire culturelle ou à l'histoire politique qui adopterait un certain point de vue sur les sociétés du passé ou qui étudierait un segment de réalité. C'est plutôt une contribution majeure à la théorie du changement historique et comprendre comment le changement historique, se fait par, d'une part, des collectifs qui sont plus larges que ceux que l'on a pensé, qui ne sont pas simplement des collectifs humains, mais des collectifs aussi non humains. Et par une construction même du concept d'histoire qui est celui qui est fait, qui est tissé de ces échanges, de ces circulations avec tout un tas d'autres êtres vivants et qui nous échappent en partie.
Anaïs Quin.
Mais c'est tout à fait vertigineux, Grégory Connett. On a l'impression finalement que cette histoire environnementale recouvre l'ensemble des champs historiques et on ne sait pas bien à quel moment on va pouvoir, d'une certaine façon, contenir, mais aussi faire en sorte de faire accepter ce nouveau paradigme historique. Vous avez notamment signé l'introduction d'un livre important, d'une traduction d'une série d'articles de William Cronon, qui est un historien américain, justement, un des grands praticiens de cette histoire environnementale, qui depuis des décennies, tente de faire une histoire totale d'une ville du Wisconsin, Portage, dont finalement personne n'a jamais vu une ligne pour le moment, mais qui est censé reconstituer l'histoire de ce lieu, de ce site, des origines préhistoriques à nos jours.
Je ne dirais pas que l'histoire environnementale recouvre l'ensemble de l'histoire, mais plutôt que toute histoire peut être environnementalisée et doit se poser une question classique d'historien, qui est par rapport à l'objet que l'on cherche à comprendre, comment je dois faire varier le curseur. C'est-à-dire que si on reproche à Durkheim ou à Bourdieu de ne pas s'être préoccupé de l'environnement, ce qui est tout à fait vrai, on peut dire que si on veut comprendre la constitution du social, l'environnement n'est peut-être pas absolument crucial, quoique cela dépende des époques. Mais si on veut comprendre, par exemple, le politique, c'est-à-dire le contrôle d'un territoire, la gestion des ressources, il est évident qu'on ne peut pas le faire sans prendre en compte cette matérialité qui tient à ce renouvellement, à cette processualité de la nature.
Oui, par exemple, si on prend l'exemple des Seychelles, on voit que les premiers colons qui arrivent donc dans les années 1770-1780, qui vont peupler cet endroit, ne correspondent pas, selon les représentants du roi sur place, à ce que l'on voudrait exactement. Donc on imagine, et là il y a du social, peut-être des transferts de population, on en envoie d'autres à l'île Bourbon parce qu'on ne les veut plus sur cette île. Et puis on va essayer d'implanter des plantes, on va faire une tentative d'implantation du blé qui ne fonctionnera pas, par exemple. Donc il n'y a pas simplement la gestion des ressources que l'on trouve sur place, ces fameuses tortues par exemple, mais aussi l'idée que, puisque ce territoire est nôtre, on peut tenter d'y acclimater des plantes qui sont les nôtres.
C'est en ce sens que l'environnement est une archive formidable, non pas comme, un stock, quelque chose d'inerte, mais comme un élément qui est tissé de ces échanges et de ces relations avec, les hommes. Vous parlez de l'esclavage aujourd'hui, 80 à 90% des plantes des Seychelles sont des plantes invasives. Les Seychelles actuelles, y compris les îles assez isolées comme, l'île Silhouette. Une des raisons, c'est le marronnage. Une autre raison, c'est l'abolition de l'esclavage. C'est une fois que l'esclavage sera aboli dans les années 1830, sera inventée la figure du pêcheur cultivateur qui a sa case et qui acclimate des fruits, des plantes africaines. Et donc, toute cette
un peu comme le soldat laboureur en Algérie pour la France.
Toute cette circulation se fait et c'est cela que j'appelle échange. En fait, c'est-à-dire que vous transformez la nature et ce qui vous revient n'est pas exactement ce que vous avez voulu.
Anaïs.
Il y a d'ailleurs une notion qui a fait grand débat, notamment aux États-Unis, et qui a opéré un tournant aussi dans ces notions d'environnement et dans leur traitement par les champs des sciences sociales, par les disciplines de sciences sociales et de sciences humaines, telles que l'histoire. C'est la notion de wilderness. Est-ce que vous pouvez nous expliquer peut-être ce débat très américain, mais qui commence, dont les tenants, les aboutissants et les intérêts épistémologiques et historiographiques sont en train de nous arriver, Grégory Kenneth?
Et comment on le traduirait d'ailleurs, ce terme?
C'est très difficile, c'est presque intraduisible, puisqu'en fait, les historiens de l'environnement états-unis ont très bien montré quels étaient les enjeux de la construction de la wilderness, c'est-à-dire lorsqu'on construit ce pays neuf, puritains qui viennent d'Europe inventent l'idée d'une nature qui était vierge, originelle, c'est-à-dire avec des hommes qui vivaient sur le territoire, les Indiens, mais qui ne travaillaient pas la terre et donc ne l'avaient pas transformée.
Sauvage.
Voilà. Et donc ils arrivent à séparer les hommes qui vivent sur ce territoire de la nature qui est sous leurs yeux.
En particulier en créant des grands parcs, par exemple.
Absolument. Et il y a une sorte de renversement qui se produit dans les années 1850, c'est-à-dire que auparavant la nature sauvage est vue de manière négative par les colons, avec cette lecture puritaine de la bestialité. Et dans les années 1850, le renversement, elle devient positive, parce qu'elle est cette nature originelle qu'il va falloir conserver,
créée
protéger,
par Dieu.
Créée par Dieu, exactement. Et alors, bien évidemment, ce n'est pas du tout l'idée, française, par exemple. D'ailleurs, si on regarde l'histoire orientale du Canada, c'est très intéressant, puisqu'elle est éclatée entre une histoire anglo-saxonne et une histoire plutôt québécoise. Et l'histoire québécoise est beaucoup plus proche d'une histoire rurale française. C'est-à-dire que le territoire s'est aménagé, s'est transformé par les hommes. Et le côté, la partie ouest est beaucoup plus wilderness.
La wilderness, et pourquoi est-ce que justement cette question, cette notion de wilderness, comme le dit Anaïs, a été aussi débattue chez les historiens, et en quoi justement c'est un enjeu de réfléchir à cette notion très américaine, comme vous venez de le dire, de wilderness?
Elle a été très débattue parce que lorsque l'histoire orientale est née aux États-Unis dans les années 1970, c'était dans le contexte d'un débat très fort avec l'anthropologie. Et la wilderness permet de poser la question qui est de savoir est-ce qu'il existe une nature que l'on peut distinguer d'une culture. Ce problème, il est infini, on n'en sort jamais, à moins, si l'on suit Philippe Descola, à moins de changer d'ontologie, ce qui est quand même un petit peu difficile, de devenir amérindien pour un occidental. Ou alors à moins, comme le propose Bruno Latour dans sa dernière exposition à Karlsruhe, Reset Modernity, il propose une expérience de pensée, il dit il faut réinitialiser la modernité, on se met au XVIe siècle, avant l'arrivée de Christophe Colomb, et on recrée nos outils. Mais c'est une expérience de pensée assez difficile à mettre. Il y a, en fait, je pense que la grande réussite de l'histoire orientale est un petit peu différente, et c'est la question que j'aimerais lui poser à ce champ, c'est de savoir est-ce que par l'histoire, on peut sortir des contradictions qui sont des contradictions entre substances différentes, telles que posées par l'anthropologie et la philosophie. Et je pense qu'on peut y sortir, parce que l'histoire, c'est la compréhension du changement dans le temps, de l'historicité, et que par là se pose la question de peut-être nous n'avons pas un monde commun ontologiquement et philosophiquement, mais peut-être nous pouvons avoir un monde commun avec les non-humains qui est celui d'un temps partagé.
Alors, changement dans le temps, c'est ce qu'ont connu les Seychelles, endroit donc où les hommes ne s'étaient pas installés, d'après ce que l'on sait, avant le XVIIIe siècle, et puis progressivement, ils s'y sont installés, et dans les dernières années du XXe siècle, c'est devenu un lieu de tourisme, et évidemment, cela change l'environnement de cette ville. C'est ce que raconte cet extrait du journal télévisé de juillet 1976. Donc, c'était un journal télévisé sur France 2.
Une eau pure, du sable blanc, une température constante d'un bout à l'autre de l'année, une population souriante qui prend le temps de vivre, c'est cela les Seychelles. Aujourd'hui pourtant, avec l'accession à l'indépendance, les responsables de l'archipel sont confrontés à un sérieux problème. Comment préserver ce petit paradis tout en répondant aux exigences du développement? Comment sauvegarder un certain art de vivre? Comment freiner la progression du béton au moment où tant d'îles ont déjà été vendues à divers intérêts? Aujourd'hui, l'avenir des Seychelles, ce sont évidemment les loisirs, mais beaucoup pensent que le tourisme ne doit rien changer à ce qu'était la vie avant le tourisme. Ici, par exemple, sur l'île de la Digue, il n'y a pas de route, pas de voiture. On vous y accueille volontiers cependant, mais avec des bicyclettes ou d'authentiques chars à bœufs. Dominer le mouvement, ce ne sera sans doute pas facile. En 1970, il n'y avait qu'un millier de touristes. L'année prochaine, il en viendra 80 000. En face du tourisme, les Seychelles ont une double vocation. La pêche, quasiment inexploitée, et l'agriculture. Ainsi, pour de jeunes dirigeants, les Seychelles constituent désormais un terrain d'expérience idéal pour tenter de mettre l'imagination au pouvoir tout en restant réaliste. Beaucoup de regards sont en effet tournés vers l'océan Indien et les convoitises les plus diverses se manifestent aux quatre coins de l'horizon.
France Culture, la fabrique de l'histoire, Emmanuel Laurentin.
Avec Anaïs Quien et vous-même Grégory Canette qui faites donc une histoire environnementale des Seychelles. Ça n'est pas encore publié, c'est un travail en cours et nous sommes très heureux que vous puissiez le présenter ici même. Alors voilà un reportage de 1976. Combien y a-t-il de touristes qui viennent maintenant aux Seychelles? Vous avez une petite idée du nombre?
Je crois qu'on est autour de 200 000 en fait, mais ce serait à vérifier.
D'accord, et donc on est très loin des 1000 qui étaient décrits pour le début des années 70, ce qui prouve bien effectivement que là, il y a un impact environnemental sur des îles comme celle-ci, mais surtout un changement de regard. Vous avez cité brièvement tout à l'heure Richard Grove et donc son travail. Il a publié en français Les îles du paradis. On utilise ce terme de paradis. C'est intéressant pour l'historien de voir que ce qui était un enfer est devenu un paradis au cours du 19e siècle.
Oui. Ce changement se produit très tardivement, en fait. La première image vraiment positive de la nature, elle se fait dans les années 1870-1880, avec un Anglais excentrique qu'on connaît bien en histoire politique, le colonel Gordon, qui est persuadé que les Seychelles sont...
Celui qui était incarné par Charlton Heston.
Voilà, sont le reste du paradis, que les quatre fleuves de la Bible convergent vers cet îlot. Et grâce à son entregent, il arrive à faire que ces théories soient examinées, parce qu'il s'appuie sur un fruit qui est le coco de mer, qui est une sorte de noix de coco gigantesque, qui fait à peu près 20 kilos, et qui est vu comme un fruit paradisiaque. Et quelques années après, eh bien, pour la première fois, on a une représentation picturale dite paradisiaque de cette île-là. Mais en réalité, le changement massif, c'est les années 1970 avec le développement du tourisme. Et ce qui est intéressant, c'est de comprendre que ce développement du tourisme s'assoit sur une naturalisation, en fait, d'un territoire qui a été profondément transformé par les hommes. Et là, il y a une sorte de contradiction. Et les Seychelles sont un endroit assez particulier parce que le nouveau gouvernement a essayé en 76 de faire une sorte de compromis en ayant un tourisme de luxe, mais limité, pour ne pas détruire la nature. Et il y a un slogan du Parti Socialiste Seychellois que j'aime beaucoup, Front de Libération en 1975, leur tract, qui dit « Le tourisme ne doit pas être notre pain, il doit être le beurre sur notre pain.
» Anaïs Quien.
Peut-être revenons sur ce processus, Grégory Canette, comment justement se fait ce changement en un siècle et demi entre un regard très infernal, un regard humain très infernal porté sur cette île où seules les tortues constituent véritablement une ressource dans un premier temps, et ce regard qui, à la fin du 19e siècle, donc là je pars des années 1740, j'arrive à la fin du 19e siècle, et là on a une représentation tout à fait paradisiaque. Que s'est-il passé en un siècle et demi pour que ce regard humain puisse changer à ce point-là, Grégory Canette?
Alors quand j'aurai tout compris, mon livre sera terminé. Pour l'instant, mes hypothèses sont les suivantes. Première chose, c'est que les Seychelles sont le résultat de l'éclatement de l'océan global, que l'on connaît bien par l'histoire interconnectée, l'océan Indien global, de la fin du 15e siècle, début du 16e siècle. C'est-à-dire que lorsqu'il y a un océan global, eh bien les Seychelles, on ne passe pas par là, on fait le tour, en passant de la côte de l'Afrique orientale jusqu'à la Dramaout, puis l'Inde.
On les évite.
On les évite, absolument. Puisque le courant de mousson, en fait, qui s'inverse au cours de l'année, ne permet pas facilement de passer par là. Et donc, on ne gagne pas de temps. Et c'est quand cet océan Indien global éclate, finalement, il se parcellise en quelque sorte et se crée des diagonales qui n'existaient pas.
C'est ce qui raconte Guillemette Crouzet dans son très bon livre, voilà, sur la création, la naissance du Proche-Orient. C'est-à-dire, c'est effectivement la querelle entre Français et Anglais qui, d'une certaine façon, cherche le plus rapidement possible à gagner le plus de terrain possible, qui vont créer... C'est par exemple ce Proche-Orient que nous connaissons aujourd'hui, dans cette concurrence entre deux nations qui se font concurrence, Grégory Canet.
Tout à fait. Et avec cet éclatement naît l'idée de limite. C'est-à-dire que désormais, on ne peut plus abandonner une île pour aller vers une autre île, comme on l'a fait, comment dire, pendant les premiers temps des découvertes. Et donc, il y a l'idée de limite et de fragilité de la nature. C'est un premier élément. Le deuxième élément, c'est la manière dont peu à peu, par, eh bien, cette nature se recouvre de signes historiques et elle est valorisée parce qu'elle a une histoire commune avec les hommes. Et cela se fait de manière, progressive et assez contradictoire, puisque cette nature, elle est à la fois, on voit très bien dans les sources, elle est menaçante, aussi par les esclaves qui se sont enfuis, qui risquent de vous attaquer, par les crocodiles, il y a des crocodiles partout, hein. Les navigateurs sont attaqués dès qu'ils essayent de faire le plein d'eau douce, puisque les crocodiles sont dans les petits ruisseaux qui vont vers les plages. Et enfin, il y a un troisième élément, c'est que je pense, c'est la manière le plus important, la manière dont ces îles rentrent peu à peu dans une histoire, dans un temps qui est un temps qui s'écoule, qui est celui de la présence sur place, en quelque sorte. Et il y a une obsession temporelle dans les archives qui est tout à fait étonnante. On passe ce temps à relever les pierres de possession, à réexpliquer ce qu'on a fait, à décrire les signes de la présence de l'homme.
Donc à inscrire la présence de l'homme.
Voilà, absolument. Peu à peu se crée quelque chose de commun, conflictuel, en partie, pas totalement, puisque c'est une île créole, enfin... terme qu'il faudrait longuement discuter, mais voilà.
Alors, vous travaillez donc sur cette histoire environnementale des Seychelles, et vous l'avez bien dit, effectivement, ces Seychelles sont situées dans un océan, l'océan Indien, qui nous intéresse au premier chef depuis que les historiens d'histoire connectée, tous ceux en particulier qui viennent du sous-continent indien, ont placé cet océan Indien comme une sorte de modèle de cette interconnexion des populations depuis une très longue durée. Et puisque nous avons avec nous Joséphine Lesure, venez nous rejoindre. Vous êtes donc archéozoologue et vous avez participé récemment à un numéro que vous avez préfacé avec Guillaume Blanc, Grégory Canet, qui est un numéro sur l'Éthiopie, puisque vous êtes spécialiste de ce terrain éthiopien en tant qu'archéozoologue. Et vous travaillez sur des périodes très très éloignées, ce qui d'ailleurs nous permet peut-être aussi de relativiser ce que dit comme quelqu'un comme Richard Grove, qui travaille sur la transformation de certaines régions liées à l'arrivée des Occidentaux à partir du XVIIe ou du XVIIIe siècle. Parce que vous travaillez sur des périodes de temps qui remontent à...
Oh, 50 000 ans à peu près.
Oui, c'est sûr. Donc la question de l'arrivée des Occidentaux dans ces régions-là, effectivement, et disons... sinon marginale, en tout cas, elle est relativisée par la durée de temps sur laquelle vous travaillez, Joséphine Lesure.
Tout à fait. Et je pense que nous, ce qu'on voit dans la préhistoire récente, j'ai envie de dire, les quelques dernières dizaines de milliers d'années, c'est surtout que l'impact de l'homme sur l'environnement, donc vraiment, ce qu'on peut dire vraiment l'histoire environnementale, elle va commencer environ il y a 10 000 ans quand l'homme va commencer à devenir producteur, c'est-à-dire éleveur, agriculteur.
Néolithique, et c'est là, à peu près.
Voilà, néolithique, ce qu'on appelle le néolithique, qui se passe à différentes périodes selon les régions, mais c'est vraiment là où l'homme va commencer à avoir un impact concret qu'on voit dans les restes archéologiques. Avant, il fait juste partie de l'environnement, il l'exploite, mais il en est juste un des maillons de la chaîne, donc il a un impact beaucoup moins fort. Mais c'est sûr que son environnement, en archéologie en tout cas, l'histoire environnementale, on l'étudie en permanence, puisque...
Vous faisiez de l'archéologie environnementale sans le savoir, d'une certaine façon.
Ah, on le savait. On le savait, tout à fait. Ouais.
Grégory Canet, vous avez préfacé donc ce numéro d'études rurales qui s'appelle « Pour une histoire environnementale de l'Éthiopie ». Et dans le texte que vous avez écrit avec Guillaume Blanc, en ouverture de ce numéro, vous dites « Voilà, c'est un bon exemple de ce que peut faire l'histoire environnementale. Voilà un terrain, l'Éthiopie, sur lequel on a peu travaillé en France, on a travaillé peut-être ailleurs, et jamais sous cet angle de l'histoire environnementale. Vous pouvez nous dire en quoi, justement, après avoir parlé des Seychelles, c'est un terrain intéressant, puis on redonnera la parole ensuite à Joséphine Lesure.
C'est-à-dire qu'il y a de nombreux travaux de recherche qui s'étaient penchés sur ces questions environnementales. Et ce que l'histoire environnementale a apporté, c'est une manière de ramasser les questions, de les éclairer sous un jour nouveau. Mais je crois beaucoup à la continuité des travaux, à la dimension cumulative du savoir. Et justement, si on prend, ce n'est que très récemment finalement que du côté de l'histoire, que l'histoire est devenue beaucoup plus culturelle, par exemple. Mmh. Mais l'histoire sociale est pleine de questions environnementales. Donc en ce sens-là, c'est pas une rupture. Ce sont les questions qui évoluent. La deuxième chose qui est très importante, c'est que on est dans un renouvellement historiographique de l'histoire environnementale cette fois-ci, qui au départ a été très états-unienne, sur des durées courtes. Et ce qu'apportent les territoires africains, et c'est très net dans ce numéro sur l'Éthiopie, c'est montrer comment, eh bien, par rapport à une certaine histoire décliniste, où le moteur de l'histoire, c'était finalement l'Occident et par son impact négatif de la colonisation et l'impérialisme, eh bien, à l'échelle des sociétés africaines et des territoires, cette histoire est un détail. Donc ça permet de desserrer les questions.
C'est un peu exagéré de dire
un détail. Pardon, c'est peut-être, disons, à l'échelle de 50 000 ans, excusez-moi, un détail chronologique.
Chronologique, c'est ça.
Enfin, troisième élément qui est extrêmement important, c'est qu'on se rend compte que dans des endroits du monde où il y a des enjeux environnementaux qui sont colossaux aujourd'hui, des menaces, eh bien, il y a une ressource que l'on n'utilise pas suffisamment, qui est la compréhension de la transformation dans le temps de cet environnement.
Anaïs Kien.
Oui, Joséphine Le Sur, vous proposez dans ce numéro d'études rurales une étude en commun sur deux petites régions qui se trouvent au sud de l'Éthiopie, le Gamo et le Wolaita, je ne sais pas si je prononce correctement le mot, mais et qui à la fois étudie ces deux régions sur ce temps très long de 50 000 ans et qui en même temps dont l'histoire se sépare dans l'époque très contemporaine et dans la nécessité pour le pouvoir éthiopien, le pouvoir politique éthiopien, de maîtriser ou non justement la nature de ces deux régions.
Oui, justement, ce qu'on a cherché à faire dans cet article, donc en collaboration avec Sabine Planel, qui est géographe à l'IRD, c'était de voir justement les différentes phases sur une région de la relation de l'homme et de son environnement. Pendant une très longue période, on va dire quasiment jusqu'au premier millénaire après Jésus-Christ, donc assez récemment, l'homme est uniquement une composante de l'environnement, il l'exploite, il est chasseur-cueilleur, il est dans un environnement très riche de montagnes, très humide.
Il laisse peu de traces,
il occupe quelques abris, il chasse, il cueille, etc. Mais il n'a pas encore d'impact réel sur l'environnement. À partir du premier millénaire après Jésus-Christ, il va commencer à élever des animaux, à cultiver des champs, et là, il va commencer à modeler le paysage.
Et donc là, on a fait un défricher. Saut de 39 000 ans déjà.
Voilà. Mais c'est progressif. Et ce qui est amusant d'ailleurs, c'est que ce passage du tout sauvage au tout domestique, on va dire, va se produire assez rapidement, sur quelques siècles. Qui pour nous est assez rapide.
C'est-à-dire qu'une fois qu'on commence à domestiquer un espace, on ne s'arrête jamais d'une certaine façon.
Voilà. Oui, c'est difficile de retourner en arrière. On a quelques exemples archéologiques de populations qui ont commencé à élever, à pratiquer l'agriculture et finalement qui sont reparties en arrière et qui sont retournées à une
pratique
à
de chasse-cueilleur.
Voilà. Parce que l'environnement s'y prêtait plus et puis c'était un choix culturel aussi. Mais souvent, une fois qu'on l'a vraiment modifié, on revient plus en arrière. Donc ça, c'est la deuxième phase, on va dire, vraiment de modelage de l'environnement. Et la troisième phase, effectivement, est beaucoup plus politique puisque comme c'est une région très riche, le gouvernement éthiopien va essayer vraiment de contrôler à la fois les productions et l'aménagement du paysage pour en tirer une rentabilité maximum. Donc on a un peu ces trois phases, à chaque fois différentes de relations avec l'environnement.
Et c'est la réaction des populations d'ailleurs à cette tentative de mainmise de l'État éthiopien, c'est-à-dire une de ces régions qui va se rebeller fortement, et une autre qui va accepter finalement cette soumission à l'État, qui va aussi conditionner leur mise en paysage, leur maîtrise par le pouvoir, puisque celle qui se sera rebellée finalement va très rapidement être recouverte par des projets étatique, alors que l'autre sera très beaucoup plus lentement prise en main, puisqu'il n'y aura pas de nécessité justement d'appliquer une emprise aussi ferme sur ce paysage-là.
Oui, tout à fait. Sachant qu'en plus, on parle de régions du sud-ouest de l'Éthiopie qui ont été intégrées à l'Empire éthiopien que très tardivement, qu'à la fin du 19e siècle. Donc avant, c'était des royaumes indépendants et l'intégration dans l'Empire s'est faite de façon assez difficile. Et encore maintenant, quand on va dans ces zones-là, les gens refusent même de parler la langue nationale. Ils sont encore très régionalistes et ils ne veulent pas... vraiment encore s'intégrer. Donc effectivement, pour ceux qui sont rebellés, on a eu une emprise du gouvernement beaucoup plus forte et donc un impact sur la production beaucoup plus forte. Et
une question peut-être de méthode. Quels sont les moyens que l'archéozoologue que vous êtes utilise pour pouvoir justement travailler sur ce très longtemps, moyens techniques évidemment, moyens d'analyse, mais aussi moyens intellectuels pour pouvoir comprendre ces changements à la fois de comportement, mais qui comportent aussi des changements, j'imagine, climatiques pendant cette très longue durée, ce qui est dû à l'homme et ce qui est dû à des changements climatiques de très longue durée et que subit l'homme en l'occurrence et qui peut-être le conduisent à avoir d'autres attitudes par rapport à son environnement.
Moi, en tant qu'archéozoologue, donc je travaille sur les restes d'animaux, mais bien sûr, je travaille pas seule. On travaille toujours en équipe avec des géologues, avec des spécialistes des restes des plantes, avec des spécialistes des outils en pierre,
des pollens,
etc. Et en fait, à chaque fois, ce faisceau de sources d'indices va nous donner une petite partie pour essayer de reconstituer l'image générale et ces évolutions. Mais effectivement, à chaque fois, on va replacer l'évolution des sociétés dans un contexte environnemental qui va évoluer en fonction des phases climatiques. Donc, il faut aussi connaître ces changements climatiques qui vont être très nombreux au cours des 10 derniers millénaires. Donc, les gens vont réagir à ces changements, s'ils sont dans les plaines, s'ils sont dans les montagnes, etc. Une des solutions va être d'adopter une économie de production, donc l'élevage et l'agriculture, mais d'autres ont fait d'autres choix, de bouger, d'être mobile saisonnièrement pour suivre les animaux sauvages. Voilà, donc en fait, ce qu'on essaye de voir, c'est par tous ces faisceaux d'indices, à la fois les changements naturels, climatiques, et à la fois comment les hommes se sont adaptés à ces changements, et puis quel impact ils ont eu là-dessus, parce qu'après, ça peut faire un peu effet boule de neige. Une fois qu'on commence à défricher, les sols vont s'éroder, et donc de nouveau, on va modifier l'environnement. Voilà, et à chaque fois, c'est un retour, et des interactions très fortes.
Anaïs Kien.
Vous avez quand même un écueil très fort dans cette région-là, c'est que le paysage volcanique aussi parfois détruit ces archives naturelles finalement très, très fragiles.
Tout à fait. Et à la fois, elles détruisent les archives naturelles, mais aussi quand elles ont eu lieu, parce qu'on a un volcanisme assez actif jusqu'à il y a quelques milliers d'années, elles ont évidemment aussi influencé les populations qui vivaient là, les forçant à partir, et pendant plusieurs centaines d'années, puisque le temps que la végétation se reconstitue. Donc ça, c'est sûr que ça a forcément un impact. Et puis, on est de toute façon dans des zones assez extrêmes. Là, par exemple, les régions dont on parle, les montagnes. Dans le sud de l'Éthiopie. On est à des 2-3 000 mètres d'altitude, des zones, des reliefs très escarpés. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que par exemple dans des régions, le sud du Soudan ou le nord du Kenya, qui sont pas très loin, quelques centaines de kilomètres, là-bas on a adopté l'élevage par exemple 3000 ans avant.
Oui, alors, ça,
alors qu'on n'est pas loin, donc on a un vrai décalage qui est lié en partie, en tout cas, à l'environnement.
Et ça, c'est très intéressant parce que je me dis, on arrive sur un terrain comme celui-ci, le vôtre, Joséphine Lesur, qui est un terrain éthiopien. On arrive sûrement avec des schémas qui sont dus aux travaux de ceux qui vous ont précédé sur les régions voisines. Comment changer de paradigme, pourrait-on dire? Parce que dans le coup, on pense que effectivement, c'est 3000 ans plus tôt que l'élevage, le pastoralisme s'est installé. Et puis, ça colle pas. Quand on regarde les traces qu'on a sur le terrain, ça marche pas. Donc il faut changer là de logiciel et se dire tout compte fait, ben oui, il y a un endroit qui est pourtant tout proche où 3000 ans plus tôt on fait du pastoralisme et ici on n'en fait pas.
Exactement. Il faut essayer de comprendre les raisons pourquoi on a ce décalage. Alors pour ces zones-là, moi je pense que c'est une espèce d'isolat un peu environnemental. Ce que je disais, l'altitude, les pentes escarpées, beaucoup d'humidité qui favorise pas par exemple l'agriculture, les animaux sont pas adaptés à ces reliefs et tout ça va faire qu'on a une forme, en plus on a un environnement très riche où il y a beaucoup de faune sauvage, etc. Donc cet isolat environnemental va former une sorte d'isolat culturel. Et donc finalement, ce passage va être beaucoup plus tardif.
Anaïs Kien.
Et puis ça oblige peut-être à repenser cette question du pastoralisme comme une étape obligée vers une civilisation qu'on connaît mieux, qui serait celle que l'on vit aujourd'hui.
Tout à fait. Moi, je travaille dans différentes zones d'Afrique, en Égypte, au Soudan, même en Namibie, et on voit qu'en fait, à chaque fois, l'adoption de l'élevage et de l'agriculture, c'est l'élevage qui arrive en premier en Afrique et puis l'agriculture, il s'est fait de façon très très différente, avec des décalages chronologiques énormes et qui sont liés à la fois aux cultures, aux sociétés, à leur choix, mais aussi à leur choix face à des réponses, à des changements environnementaux, des changements climatiques. Par exemple, vers le sud de l'Afrique, on doit passer des couloirs où il y a beaucoup de maladies infectieuses, la mouche tsetse, la maladie du sommeil, etc. Donc à chaque fois, on a beaucoup de facteurs qui font que les hommes vont devoir s'adapter pour commencer à produire et être indépendants au niveau de leur nourriture. Et ce qui fait qu'à chaque fois, on a plein de réponses différentes, en fait. Et ça qui est passionnant.
Oui, ça veut dire aussi que les grandes frises que l'on mettait chez soi, avec l'arrivée du néolithique, l'arrivée de l'élevage, l'arrivée de l'agriculture, effectivement, il faudra les revoir. Il faut les revoir. Parce que justement, cette histoire environnementale nous oblige à penser autrement.
Exactement. Alors, il ne faut pas tomber dans un déterminisme environnemental. Donc, tout n'est pas lié à l'environnement, mais ça a évidemment un fort impact sur ces choix culturels.
Grégory Canette, qu'est-ce que ça vous fait de plonger comme ça, en lisant les articles d'études rurales et de Joséphine Le Sur et de Sabine Planel, 50 000 ans en arrière, alors que, effectivement, vous êtes plutôt spécialiste de périodes plus récentes?
Une partie sonne de manière très familière à mes oreilles, c'est cette manière d'étudier les seuils, les discontinuités, d'enrichir la chronologie de l'histoire en montrant qu'il y a ces éléments matériels, physiques, qui sont un élément essentiel. Après, évidemment, la chronologie m'est peu familière, il y a des questions communes face à cette question, par exemple, des possibilités du déterminisme, nous renvoie à des débats centraux dans la constitution de l'histoire. Je crois d'ailleurs plutôt que la question d'un choix entre différents possibles, qui était la manière dont la dimension géographique et non déterministe était abordée en histoire, il faudrait remplacer ça par une limitation des possibles. Parce que le possible se fait toujours par des raisons culturelles et sociales, en fait, et jamais environnementales, ou alors vraiment très, très, très rarement. Et c'est la multiplicité des temps, c'est renoncer aussi, c'est à ce qu'on appelait au XVIIIe siècle l'histoire conjecturale, c'est-à-dire des stades de civilisation qui suivaient les uns après les autres. Oui. Ce que l'histoire en nous apprend, c'est que non, justement, il n'y a pas de stade de civilisation. Et il faudrait éviter une régression, d'ailleurs, en réintroduisant par l'environnement le thème, parfois, de la chute des civilisations. Je reste très méfiant par rapport à cela.
Joséphine Le Sur, sur ces questions, justement, telles qu'elles sont abordées par Grégory Canette.
Oui, mais je suis tout à fait d'accord. C'est vrai qu'on n'a pas... nous, on a uniquement des archives matérielles qui sont beaucoup moins lisibles que des textes. Donc on avance peut-être plus difficilement, et on est sur un temps long, mais je suis tout à fait d'accord sur ce qu'il dit, on essaye d'appréhender effectivement les discontinuités. Je repensais à ce que vous disiez sur le déterminisme et ne pas parler de régression des sociétés, etc. Je pensais aux travaux d'Alain Testard, aussi sur la classification des sociétés, où justement, en fonction des environnements, des périodes, etc. On peut pas, si on essaye de faire de l'ethno-archéologie, c'est-à-dire de comparer ce qu'il y a actuellement avec ce qu'il y a dans le passé, on peut pas plaquer.
De hiérarchiser, tout simplement.
De hiérarchiser, voilà, les choses. Et que là-dessus, en fait, moi, ce que je vois en travaillant dans différents pays d'Afrique, c'est qu'on a un millier de solutions possibles à chaque fois. Et la limitation des possibles, je suis tout à fait d'accord, c'est qu'on a des données, on a des contraintes, c'est comment on répond à ces contraintes. Qui vont évoluer dans le temps.
Vous avez l'impression de participer, je disais tout à l'heure, en vous présentant, Grégory Canette, un pionnier de l'histoire environnementale en France, à vraiment quelque chose qui va se répandre assez rapidement, un outil, une façon de voir qui va se répandre assez rapidement dans cette discipline de l'histoire, mais des sciences sociales en général?
Oui, je pense cet outil nouveau, en tout cas, c'est très enthousiasmant, est dû à un contexte qui a changé. Nous sommes beaucoup plus préoccupés par l'environnement et par l'impact des sociétés humaines sur leur environnement. Donc en ce sens-là, il n'y a pas de jugement de valeur à faire par rapport à des historiens qui ont précédé, qui étaient moins sensibles aux dégradations de la nature, par exemple.
Et puis il y a des crédits qui vont avec aussi. On peut dire aussi que c'est important, ouais, pour la recherche de savoir tout effectivement que l'argent va être fléché peut-être plus facilement sur ces questions-là, parce que évidemment vous trouverez peut-être des réponses aux questions qu'on s'oppose aujourd'hui sur les difficultés environnementales.
Tout à fait. Et je crois qu'une partie des malentendus par rapport à l'histoire environnementale viennent d'une lecture un peu datée, finalement, qui est celle du risque du déterminisme, d'une histoire qui irait contre l'histoire sociale. Tout au contraire. Et en revanche, il y a vraiment deux positions très différentes. C'est soit concevoir l'histoire environnementale comme un champ à part, séparé du cœur de l'histoire, ou concevoir, c'est plutôt ce que je défends, comme une manière d'enrichir le répertoire et les outils de l'historien dans un dialogue avec des textes antérieurs auxquels on pose des questions nouvelles, des questions qui ne se sont pas posées. Et c'est tout ce qu'on appelle tout simplement faire de l'histoire.
C'est faire de l'histoire, effectivement. Alors, on peut conseiller la lecture aux éditions Dehors, donc, de ce livre de William Cronon que vous avez préfacé, donc, qui s'appelle Nature et récits au pluriel, essais d'histoire environnementale. Donc c'est une maison d'édition dont vous nous dites qu'elle est spécialisée justement sur ces questions d'histoire environnementale. La collection que vous dirigez peut-être?
Alors je ne la dirige plus, j'ai passé la main, parce qu'il y a beaucoup de jeunes chercheurs très dynamiques, donc il faut savoir passer la main.
Et donc c'est aux éditions Champvallon, voilà, ça s'appelle...
L'environnement a une histoire.
L'environnement a une histoire, effectivement. Et puis votre livre sur Versailles et ses lapins, c'est donc l'année dernière?
Oui, c'est cela, oui.
Et puis si on veut vous lire, Joséphine Lussure?
Dans études
rurales.
Études rurales, et sinon
pour une histoire environnementale de l'Éthiopie.
Voilà, un livre qui sortira l'année prochaine sur la préhistoire africaine des relations de l'homme et de l'animal.
Merci à tous les deux. Merci à vous, Anaïs Quin, de nous avoir accompagnés. On continuera donc cette semaine sur l'histoire des politiques environnementales en nous intéressant avec le documentaire de Catherine Decopé et Séverine Cassard que nous diffuserons demain à la question des abattoirs de Paris, cacher le sang des bêtes, de la tuerie à l'abattoir. Pourquoi? À un moment, s'est-on dit que peut-être il ne fallait plus dans nos villes, justement, voir abattre les animaux. C'est la question qui se pose dans ce documentaire qu'on écoutera demain.
Au cours du XVIIIe siècle et au début du XIXe siècle, il y a combien de tueries particulières à Paris? Est-ce qu'on a une idée de cette présence et est-ce qu'elle se développe?
Alors, il y a environ, au XVIIIe siècle, 200 à 300 bouchers. Chaque boucher peut tuer, en général, mais ce n'est pas le cas de tous les bouchers. Parfois, il y a une mutualisation des tueries. Mais Paris consomme beaucoup de viande, en fait. C'est une des villes qui consomme le plus de viande par habitant en Europe à cette époque. Et donc, oui, il y a une corrélation très directe entre la montée en force d'une consommation et la présence des tueries dans Paris.
Les bouchers parisiens, c'est des gens qui abattent chez eux, dans des tueries particulières. Ils sont environ 350, 400 maxi. Ce sont des gens qui, souvent, exercent le métier sur plusieurs générations. Donc, ils sont en vase clos. Mais en gardant l'esprit qu'il y a quand même un certain nombre de tueries qui sont regroupées dans des lieux phares. Le plus connu, c'est la Grande Boucherie près du Châtelet, où on regroupe, je crois, 50 étaux. Et après, la deuxième plus grande, ça va être l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés, qui a également, je crois, une cinquantaine d'étaux.
On dit étaux?
Alors nous, en français modèle, on doit dire étal, mais dans le contexte de l'époque, on dit étaux.
Vous parlez de tuerie particulière. En fait, la tuerie particulière, c'est également la boutique. C'est là où tout se passe pour le boucher parisien.
La tuerie, c'est le lieu de l'abattage. L'étal, c'est le lieu du débitage de la viande et de la vente au public. C'est comme s'il y avait une boutique et une arrière-boutique. L'arrière-boutique serait la tuerie, qui est le lieu de la mise à mort. Et on aboutit à une carcasse et à des quartiers. Et après, l'étal, c'est le lieu où le boucher, ou sa femme, ou ses employés, vendent au public.
Voilà un extrait donc du documentaire signé Catherine Decopé et Séverine Cassard que vous pourrez écouter dans la Fabrique de l'Histoire demain, Cacher le sang des bêtes, de la tuerie à l'abattoir, pour poursuivre notre semaine consacrée à l'histoire des politiques environnementales. Mercredi, nous vous parlerons des politiques environnementales dans la Rome antique et jeudi de l'histoire des risques industriels. Comme d'habitude, cette émission était préparée par Francesca Fossati et Aurélie Marcet. Nicolas Delmas était avec nous à la technique et Anne Fleury à la réalisation. Si vous voulez écouter ou réécouter cette émission ou toutes les autres, n'hésitez pas à aller sur le site internet de France Culture, www.franceculture.fr. Vous pouvez les y télécharger également dans l'année qui suit leur diffusion. Et puis également discuter avec nous sur le groupe Facebook des Amis de la Fabrique de l'Histoire ou nous suivre encore sur le réseau Twitter.